How do you feel?
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 20 février 2025. Au Niger, les assises nationales proposent une transition de 5 ans pour le régime militaire.
En réalité, c'est maintenant seulement que la transition commence, si on peut parler de transition. Ça veut dire que toute la période qui a précédé, les assises ne sont pas prises en compte.
Sédi Kaba, spécialiste du Sahel, nous en dira plus dans la partie magazine. La France rétrocède à la Côte d'Ivoire sa base militaire du 43e Bima à Abidjan. Washington sanctionne un ministre rwandais pour son rôle essentiel dans le conflit dans l'est de la RDC. Réunion des chefs de la diplomatie du G20 sans les responsables des États-Unis sur fond de tension. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit ce jeudi à Kiev l'envoyé spécial américain Keith Kellogg. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. L'opposant guinéen Abdoul Sakho, enlevé mercredi à son domicile en banlieue de Conakry par des hommes encagoulés, a été retrouvé dans un état critique, torturé et abandonné par ses ravisseurs, ont annoncé aujourd'hui ses avocats l'enlèvement de M. Sakho, un des responsables des forces vives de Guinée, une coalition de partis, de syndicats et d'organisations non gouvernementales qui réclament un retour des civils au pouvoir, a suscité de vives protestations à travers la Guinée. Les assises nationales au Niger proposent une transition de 5 ans pour le régime militaire. Les conclusions des travaux proposent par ailleurs une possibilité pour les dirigeants militaires de se présenter aux prochaines élections. Alexandrine Olignon.
La refondation se fera sur une durée de 60 mois, c'est-à-dire 5 ans à compter de la date de l'adoption de la charte, a indiqué Maître Bibata Niando, une participante, lors d'une cérémonie retransmise en direct sur la télévision d'État. Mamoudou Haruna Dingare, qui a présidé les assises, a mentionné la possibilité pour les dirigeants des organes de la transition de se présenter aux futures élections. L'événement a eu lieu en présence du président nigérien, le général Abdourahmane Tiani, qui devra valider cette proposition. Il a salué un nouveau départ pour le pays. Les assises ont formulé des résolutions précisant que la durée de la transition peut évoluer en fonction notamment de la situation sécuritaire et l'agenda de la Confédération des États du Sahel. En outre, les conclusions des travaux proposent par ailleurs de conférer le titre de président de la République au général de brigade Tiani et de l'élever au grade de général d'armée. Elle propose également une amnistie pour les auteurs du coup d'État du 26 juillet 2023 qui a chassé le président civil élu Mohamed Bazoum.
La France a rétrocédé à la Côte d'Ivoire la base militaire de Port-Boué près de l'aéroport d'Abidjan qu'elle occupait depuis 1978 lors d'une cérémonie en présence des ministres de la Défense des deux pays. Nathalie Barge.
La cérémonie s'est tenue en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé et du vice-président Tiémoko Méliékoné. Les ministres de la Défense de la Côte d'Ivoire, Téné Biraïma Ouattara, et de la France, Sébastien Lecornu, ont signé l'acte de rétrocession du 43e bataillon d'infanterie et de marine. Une relève de la garde a transféré la responsabilité de la sécurité du camp à l'armée ivoirienne. La base porte désormais le nom du général Paul Thomas Dakin Ouattara, premier chef d'état-major ivoirien. L'armée française, qui était déployée dans certains pays dans le cadre de la lutte anti-djihadiste au Sahel, a dû se retirer du Mali, du Niger et du Tchad. Elle a par ailleurs engagé un processus de retrait de ses bases au Sénégal, qui doivent être restituées aux autorités sénégalaises cette année. En Côte d'Ivoire, le retrait des soldats français va s'opérer également progressivement en 2025 et la coopération militaire va se poursuivre. Une centaine de militaires resteront sur la base pour des missions de formation et d'accompagnement de soldats ivoiriens. Les liens entre les armées ivoiriennes et françaises remontent à un accord de défense signé en 1961, un an après l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En 2012, un nouvel accord militaire avait été signé entre Alassane Ouattara et le président français d'alors, Nicolas Sarkozy. Monsieur Ouattara a déclaré que l'acte de rétrocession du 20 février 2025 marque une nouvelle étape dans les relations d'amitié et de coopération stratégique entre les deux pays.
L'Érythrée a accusé aujourd'hui son voisin éthiopien de mener une campagne intense et inacceptable de dénigrement à son encontre dans un contexte de dégradation des relations entre les deux pays de la Corne de l'Afrique. L'ONG Human Rights Concern Érythrée a affirmé mardi qu'Asmara a ordonné une mobilisation militaire nationale pour tous les citoyens de moins de 60 ans. Les États-Unis ont annoncé aujourd'hui des sanctions financières contre un haut responsable rwandais, l'ancien ministre de la Défense, James Kabarebe, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises au groupe armé du M23 dans l'est de la République démocratique du Congo. L'actuel ministre pour l'intégration régionale est une personnalité politique et militaire de premier plan qui a joué un rôle essentiel dans les conflits en RDC ces trois dernières décennies, affirme le ministère américain des Finances dans un communiqué.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les ministres des Affaires étrangères du G20 se réunissent à Johannesburg à partir d'aujourd'hui dans un contexte marqué par la décision des États-Unis de ne pas envoyer de hauts représentants. Cette absence est qualifiée de camouflet pour l'Afrique du Sud. Nani Talani.
Premier pays africain à prendre la présidence du G20, l'Afrique du Sud doit composer avec l'absence des États-Unis, un acteur majeur lors de ce sommet organisé pour la première fois sur le continent. Le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, a décliné l'invitation, reprochant à Pretoria une posture anti-américaine. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, sera également absent de la réunion des ministres des Finances du G20 prévue au Cap la semaine suivante, expliquant qu'il avait des engagements à Washington. Priyal Singh, chercheur à l'Institut pour les études de sécurité de Pretoria, considère que l'absence de Rubio constitue un camouflet pour l'Afrique du Sud qui doit poursuivre son programme de présidence du G20. Ce n'est pas un boycott complet du G20 en Afrique du Sud, a insisté la diplomatie sud-africaine. Washington étant représentée par la chargée d'affaires à l'ambassade américaine de Pretoria. Par ailleurs, la majorité des diplomates du G20 seront présents à Johannesburg. Parmi eux, les patrons de la diplomatie des pays des BRICS, dont la Russie, la Chine et l'Inde. Ceux de la France et de la Grande-Bretagne ont aussi confirmé leur participation.
À l'ouverture de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à Johannesburg, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a appelé à ce que le multilatéralisme et le droit international restent les piliers de l'ordre mondial. Cette réunion de deux jours des ministres des Affaires étrangères est un premier jalon menant au sommet du G20 de novembre qui sera le premier organisé en Afrique. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky reçoit aujourd'hui l'envoyé spécial des États-Unis après avoir essuyé de très vives critique de Donald Trump, faisant craindre une rupture entre Washington et Kiev. Le point avec Rosine Monizero.
Signe de tension, M. Zelensky et Kate Kellogg ne feront pas de déclaration après leur rencontre à la demande de parties américaines, a fait savoir la présidence ukrainienne. Après avoir qualifié M. Zelensky de dictateur, M. Trump a affirmé mercredi soir que, dans ce conflit, les Russes avaient pris beaucoup de territoire et avaient donc les cartes en main. Le Kremlin, ne cachant pas sa satisfaction, a annoncé jeudi avoir décidé avec Washington d'une reprise du dialogue sur tous les paramètres, se disant complètement d'accord avec la position américaine sur l'Ukraine. De son côté, l'Union européenne a pris la défense de son allié ukrainien. Dans ce contexte hostile, M. Zelensky a dit espérer néanmoins un travail constructif lors d'une rencontre prévue à Kiev avec l'émissaire de M. Trump, Kate Kellogg. À son arrivée à Kiev mercredi, Kate Kellogg avait assuré comprendre le besoin de garanties de sécurité de l'Ukraine. « Notre avenir n'est pas avec Poutine, mais avec la paix », a-t-il plaidé à la veille de la rencontre.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a qualifié ce jeudi le Hamas de monstre après la mise en scène organisée à Gaza pour la remise de 4 dépouilles d'otages israéliens, dont ceux des enfants Bibas, symbole de la tragédie du 7 octobre 2023 en Israël. Le convoi transportant les cercueils est arrivé en début d'après-midi à l'Institut médico-légal d'Abu Kabi à Tel Aviv, où les corps devaient subir une autopsie en vue de permettre leur identification. 8 dirigeants arabes se réunissent demain vendredi à Riyad pour discuter d'un plan en réponse à la proposition de Donald Trump de placer la bande de Gaza sous contrôle américain et de déplacer sa population palestinienne. Le refus du déplacement des Palestiniens a fait l'objet d'un rare consensus arabe, mais des désaccords pourraient éclater sur la gouvernance de Gaza et le financement de la reconstruction, selon des sources diplomatiques arabes et des experts. Et puis, le président sud-coréen Yoon Suk-yeol est jugé pour insurrection après avoir tenté d'imposer la loi martiale en décembre pour contrer l'opposition parlementaire. C'est la première fois qu'un président en exercice est poursuivi pénalement en Corée du Sud, en parallèle d'une procédure de destitution. Voilà pour le journal. Vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Rosine Monizero.
Un ancien cadre du groupe de négoce pétrolier Ganfeng a été condamné jeudi en Suisse à 2 ans de prison avec sursis pour corruption d'agents publics étrangers au Congo-Brazzaville. Le tribunal pénal fédéral indique qu'il avait pris part pour le compte de son employeur à des versements entre juin 2010 et décembre 2011 en vue d'obtenir des contrats pour des livraisons de pétrole brut auprès d'une société étatique congolaise. Ces versements portaient sur un montant de plus de 35 millions de dollars. Le tribunal l'a également condamné d'année à reverser 950 000 dollars, une somme équivalente à la prime touchée lors de son licenciement par Ganfeng. Le chef d'État sud-africain Cyril Ramaphosa a plaidé jeudi pour le multilatéralisme et le droit international lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 boycottée par le chef de la diplomatie américaine. L'absence de Marco Rubio représente un camouflet pour l'Afrique du Sud, estime un chercheur à l'Institut pour les études de sécurité à Pretoria. Donald Trump a estimé qu'un accord commercial avec la Chine était possible alors que le président américain poursuit son projet protectionniste à coups de droits de douane. Il a rappelé qu'en 2020, les États-Unis avaient déjà conclu un excellent accord commercial avec la Chine. Pour sa part, Pékin a exhorté Washington à ne pas constamment brandir le bâton des droits de douane à tout bout de champ comme un outil de coercition pour résoudre les différends.
Place maintenant au sport avec Eric Manirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Tirage au sort des quarts de finale des Interclubs CAF Total Énergie.
La CAF a confirmé la participation de 4 figures emblématiques du football africain en tant qu'assistant du tirage. Il s'agit d'Oel Goma, légende du football égyptien, unanimement reconnu comme l'un des plus africains. Rabah Madjer, icône du football algérien, a marqué l'histoire tant par ses exploits sur le terrain que par sa contribution au rayonnement du football africain. Rainford Kalaba, joueur emblématique du foot zambien, a brillé aussi, bien en sélection qu'en club. Ben Malango est un ancien international congolais réputé pour son efficacité devant le but dans les compétitions interclubs africaines. Le tirage au sort va se dérouler dans les studios ultramodernes de Beansport, situés au siège de la chaîne pour la région MENA à Doha.
Ligue des champions, le flop européen du foot italien.
La Serie A a la gueule de bois. Il ne restait plus que l'Inter Milan dans la compétition reine du football européen. Le football italien, toujours fragile sur le plan économique, fait grise mine. Des 5 clubs italiens initialement en lice, Bologne n'a pas dépassé la phase de poule, alors que l'AS Milan, la Juve et l'Atalanta ont tous les 3 mordu la poussière en l'espace de 24 heures face à des adversaires a priori à leur portée en barrage d'accession au 8e de finale de la Ligue des Champions. Moins d'un an après le sacre enthousiasme de l'Atalanta en Ligue Europa face au Bayern Leverkusen 3-0, 2 ans après la finale de Champions League perdue par l'Inter contre Manchester City. Il faut remonter à 2014-2015 pour trouver trace de la dernière édition de la Ligue des Champions avec un seul représentant du Calcio en 8e de finale. La Juventus qui avait atteint et perdu cette année-là la finale contre le FC Barcelone. C'est seulement la 3e fois qu'après 2013-2014 et 2014-2015 que l'Italie est aussi mal représentée à ce stade de la compétition depuis la création de la Ligue des Champions sous cette dénomination.
NBA, les Lakers surpris à domicile par les Hornets.
LeBron James et Luka Doncic ne suffisent pas sur leur parquet de Los Angeles. Les Lakers ont été dominés mercredi 100 à 97 par les Charlotte Hornets. Pourtant, mal classé en NBA, l'entraîneur des Lakers, Redick, a notamment mis en avant la difficulté de reprendre après la pause du All-Star Game. « Je pensais que notre esprit de compétition allait suffire pour gagner, mais nous étions simplement très mauvais. » Offensivement, 90% du match a-t-il estimé.
Page des sports VOA Afrique, signée Eric Manirakiza.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Niger, les assises nationales recommandent une refondation de l'État sur une durée de 5 ans renouvelable pour conduire la transition en cours et la possibilité pour les dirigeants du régime militaire de se présenter aux prochaines élections. Au terme de 5 jours de travaux, les 716 participants civils et militaires ont proposé d'autres mesures. Pour une analyse, Eric Manirakiza, adjoint à Paris, Sedi Kaba, journaliste écrivain et spécialiste du Sahel.
En réalité, c'est maintenant seulement que la transition commence, si on peut parler de transition. Ça veut dire que toute la période qui a précédé, les assises ne sont pas prises en compte. Et à partir maintenant de la remise du rapport des assises, une période de 5 années va être nécessaire pour, selon en tout cas, pour asseoir une refondation de l'État. Il ne s'agit pas d'une transition, mais il s'agit d'une période pour permettre la refondation de l'État. Il a été constaté que chaque fois qu'il y a un coup d'État au Niger, on fait une transition, on s'empresse d'aller à des élections qui, élections, ne résolvent pas les problèmes qui ont amené au coup d'État eux-mêmes. Je crois que les messages qui sont sortis de ces assises, c'est cette volonté justement de ne plus avoir de transition, mais d'avoir une refondation, une période longue qui est de 5 ans, presque renouvelable, et qui permet pendant cette période de construire des institutions fortes qui vont a priori permettre, avec les réformes qui ont été engagées, qui vont permettre au Niger de partir sur une nouvelle base, puisque les assises prévoient la dissolution des partis politiques, prévoient aussi le changement du régime, puisque le Niger, depuis le multipartisme de 91, a toujours choisi, conforme de l'État, le régime présidentiel. Comme régime au pouvoir, le régime semi-présidentiel plutôt. Les assises ont décidé qu'il y aurait désormais un régime présidentiel assez fort. Donc voilà un peu les orientations que les assises ont données. Et c'est pour ça qu'on ne parle plus de transition, mais qu'on parle de période de refondation, qui est une période beaucoup plus longue que la transition.
Quelle pourrait être la différence avec, disons, l'alternance démocratique comme nous sommes habitués à le voir, qui normalement, le nouveau élu est élu pour des réformes qu'il propose aux électeurs?
Oui, dans ce cas, vous savez, quand il y a une alternance politique, c'est le régime ou le parti ou la personnalité qui a été élue qui vient avec son agenda. Mais cette fois-ci, c'est l'agenda des assises que le pouvoir militaire est censé mettre en œuvre. C'est pas son agenda à lui, mais c'est l'agenda des assises. Même si on a pu par le passé critiquer les assises du fait de leur caractère pas totalement inclusif, mais on part du principe que ce sont les conclusions des assises que le pouvoir va mettre en place. Ce n'est pas les décisions du pouvoir lui-même, mais c'est les décisions des assises, puisque apparemment les autorités se sont engagées à mettre en œuvre toutes les conclusions qui sont sorties des assises. C'est ça la différence avec l'alternance.
Sedi Kaba, journaliste écrivain et spécialiste du Sahel. Figure incontournable du cinéma africain, dont il est aussi l'un des pères fondateurs, le réalisateur malien Souleymane Cissé est décédé hier mercredi à l'âge de 84 ans à Bamako. Pour mesurer l'ampleur de son héritage et son impact sur la culture cinématographique africaine, Nani Talani a joint à Marseille, en France, Haruna Drago, cinéaste-réalisateur franco-burkinabé. Il est aussi le président de l'association Dania des cinéastes africains.
Souleymane Cissé a été le visionnaire du 7e art qui n'a cessé sans relâche, toujours reprendre, toujours essayer, toujours continuer à aller de l'avant, ne rien lâcher. Ne rien lâcher était surtout son mot qui disait que vaut mieux bien faire les choses que de ne pas le faire. Donc aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés avec un cinéma panafricain un peu bien en avance, hein, mieux qu'avant. Beaucoup ont suivi ses pas et aussi aujourd'hui l'héritage de Souleymane Cissé est en plein essor du cinéma panafricain. Je pense aujourd'hui qu'il a touché une partie des 50 dernières années, donc tous ceux qui sont passés par là.
En quoi son film Yélène est-il considéré comme une œuvre phare du cinéma africain qui lui a d'ailleurs valu un prix à Cannes?
Yélène est un grand chef-d'œuvre, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse, beaucoup de joie, beaucoup de peine à travailler sur ce projet pendant des années et avec beaucoup de détermination. Et surtout dans la conception, dans la création et dans vraiment la vision du 7e art, le message profond, la visibilité profonde qu'on pouvait donner à un film et aussi la technicité, le savoir, le regard, surtout le regard de l'œuvre en elle-même, le regard aussi d'où peut aller l'œuvre. Pour moi, Yélène était un fruit qui a mis du temps à mûrir, mais quand elle a mûri sur l'arbre, c'est délicieux jusqu'à aujourd'hui. Je pense que c'est une marque de fabrique. C'est même la fabrique même intellectuelle du cinéma. Pas que Yélène, je parlais aussi des Wati, dont j'ai été marqué tout au fond.
Quel héritage Souleymane Cissé laisse-t-il aujourd'hui aux jeunes cinéastes?
Moi, personnellement, qui connaît son entourage, qui connaît son parcours par cœur, qui l'a accompagné dans pas mal de pays, je sais que tous les jeunes que j'ai pu voir à Cannes ont été inspirés par Souleymane Cissé, en partant du Sénégal jusqu'en Afrique du Sud. Je parle vraiment de tout le continent africain. C'est tous les cinéastes qui ont pu faire un pas en avant, ont pris un exemple sur Souleymane Cissé, sur Sambène Ousmane. Voilà, ce sont ces deux grands baobabs qui ont contribué aujourd'hui à l'émancipation du cinéma africain à travers l'échelle mondiale. Aussi, je veux dire qu'il faut aussi voir les centres de formation qui ont été créés grâce à Souleymane Cissé, les études aussi qui ont été faites à travers ces films ici, l'accompagnement des différents festivals, quand on prend le FESPACO, le Festival de films de Luxor, tous ces grands festivals au Maroc, en Égypte, tous ces grands volets cinématographiques à travers l'Afrique, il n'y a pas un seul festival, il n'y a pas une seule école, il n'y a pas un seul centre de formation qui ne prend pas conseil auprès de ce doyen. Voilà, tous ces gens-là sont passés, prennent des conseils auprès de ce doyen, donc ça veut dire quelque part qu'il a marqué son époque, il a marqué son temps et surtout il a marqué le cinéma mondial, il a marqué la jeunesse africaine à travers son cinéma.
Le franco-burkinabé Haruna Dragbo, cinéaste réalisateur et président de l'association Dania des cinéastes africains.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Des pays africains confrontés au manque d'emplois et à un taux de chômage croissant envoient leurs ressortissants en Europe ou au Moyen-Orient pour trouver de l'emploi et combler le déficit démographique de certains de ces pays. Au Kenya, les détracteurs de l'initiative migratoire accusent le gouvernement de promouvoir un commerce d'esclaves. Des rapports faisant état de mauvais traitements infligés aux migrants dans certains pays du Moyen-Orient où des millions d'Africains travaillent déjà ont également alimenté le scepticisme. Alexandre Nolognon.
Ils font la queue par centaines pour rencontrer les recruteurs dans les écoles des villes de province et les salles de convention des grandes villes. Certains munis de diplômes d'études supérieures, d'autres n'ayant qu'un niveau d'études primaires à leur actif. Tous espèrent décrocher l'un des milliers d'emplois que le gouvernement kényan entend pourvoir cette année dans le cadre de l'une de ses initiatives les plus ambitieuses en matière d'emploi.
Cela fait 20 ans que je cherche un emploi et que j'essaie de trouver n'importe quel emploi qui ne consiste pas à vendre des légumes. J'ai postulé pour un emploi dans le domaine de la sécurité en Arabie Saoudite et on m'a offert cette chance là-bas. Je suis donc reconnaissante.
Vous l'aurez compris, ces emplois ne se trouvent pas au Kenya. Ils se trouvent dans des pays riches d'Europe, du Moyen-Orient et d'ailleurs, où les autorités espèrent que les jeunes Kenyans pourront acquérir des compétences et des revenus qui stimuleront l'économie nationale.
Nous avons réalisé que nous disposions d'une ressource très importante, les ressources humaines, et que nous pouvions exporter notre main-d'œuvre et gagner ainsi beaucoup d'argent. Cela résout deux problèmes pour nous. Premièrement, le taux de chômage élevé peut être combattu parce que nous avons plus de personnes qui sortent de l'université avec des diplômes, des ingénieurs, des médecins, des infirmières, des journalistes, et qu'il n'y a de postes disponibles à pourvoir. Et deuxièmement, nous sommes en mesure de fournir des emplois aux pays étrangers qui ont besoin de cette main-d'œuvre. Et en retour, nous recevons beaucoup de devises étrangères dans notre pays ou nous recevons des envois de fonds dans un pays qui nous aide vraiment à stabiliser notre taux de change.
L'envoi de travailleurs à l'étranger est au cœur des stratégies de développement de pays asiatiques comme les Philippines et le Bangladesh depuis des décennies. Mais cette approche n'a pas été largement adoptée en Afrique subsaharienne, où des pays comme le Kenya ont été accusés par des citoyens frustrés de se soustraire à leur responsabilité de créer des emplois dans leur pays. Cette situation commence à changer. Alors que les pays du monde entier qui vieillissent rapidement cherchent des travailleurs pour maintenir leur économie à flot, certaines nations africaines, qui n'ont pas assez d'emplois pour leur population en croissance rapide, prennent des mesures pour en tirer parti. L'Allemagne a signé un accord avec le Kenya en septembre dernier pour assouplir certaines conditions imposées aux employeurs désireux d'importer des travailleurs kényans qualifiés.
La connaissance et la conscience du fait que le manque de main-d'œuvre qualifiée est désormais un facteur qui affecte la société dans son ensemble gagne de plus en plus du terrain. Je vais vous donner un exemple. Nous avons des restaurants et des hôtels en Allemagne qui ferment certains jours de la semaine simplement parce qu'ils n'ont pas de serveurs, de chefs ou d'experts en hôtellerie.
Malgré cela, cette stratégie n'est pas sans risque, notamment en raison de la montée des réactions contre l'immigration dans de nombreux pays européens et aux États-Unis.
L'inflation aux États-Unis a augmenté en janvier, les prix des denrées alimentaires, de l'essence et du logement, entre autres, ayant continué à augmenter. La correspondante de la VOA, Veronica Balderas-Iglesias, s'est entretenue avec des économistes sur ce que l'administration Trump peut faire pour faire baisser les prix. Le récit est de Lionel Gaïma.
L'inflation aux États-Unis n'est pas encore maîtrisée. L'indice des prix à la consommation a augmenté de 3% en janvier par rapport à l'année précédente, selon le dernier rapport du ministère américain du Travail. D'après les économistes, plusieurs facteurs sont à l'origine de cette hausse. Alison Schrager travaille au Manhattan Institute. Elle s'est exprimée via Skype.
Le coût du logement continue d'augmenter, les services restent chers, les prix des biens ont baissé en grande partie grâce à la reprise après la pandémie et cette progression s'est largement arrêtée.
Edmond Berisha, lui, est professeur associé d'économie à la Montclair State University. Il s'est exprimé via Skype.
Nous nous en sortons plutôt bien en termes de taux de chômage, qui signifie que les gens travaillent, qu'ils gagnent de l'argent et que lorsqu'ils le font, ils dépensent. Et ces dépenses élevées maintiennent les prix à un niveau élevé.
Bien que les analystes affirment qu'il a hérité d'une économie globalement stable, le président Donald Trump rejette la responsabilité de l'inflation sur son prédécesseur, Joe Biden.
C'est Biden qui en est à l'origine. Pendant 4 ans, je n'ai pratiquement pas connu d'inflation. Alors je prends le relais.
Selon l'économiste Alison Schrager, certaines mesures proposées par l'administration Trump pourraient soutenir l'économie. Alison Schrager.
Les réductions de l'impôt sur les sociétés, une éventuelle réforme fiscale plus poussée et une partie de la déréglementation stimuleront également l'économie.
Les consommateurs ne devraient pas être soulagés en ce qui concerne les taux d'intérêt. Mais d'autres mesures peuvent être prises pour réduire le coût de la vie, selon les experts. De nouveau, l'économiste Edmond Berisha via Skype.
Vous voulez soutenir le marché libre autant que vous le pouvez. L'autre chose est que nous voulons aussi stimuler la production.
Berisha a souligné que l'inflation est un phénomène mondial et que, comparé à d'autres pays, l'économie américaine, même avec une croissance modeste de l'emploi en janvier, reste en bonne santé.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous êtes
écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Radio Mwangaza, Lubumbashi, 102.1 FM, Niamey. Radio Tropique, 99.8 FM, Korogo, Côte d'Ivoire. Et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.